Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On y va avec Pierre qui est restaurateur. Aujourd'hui, on a parlé de la qualité des fruits, de la qualité des légumes, du visuel, du goût. On va réécouter Étienne Liebig. Pierre est restaurateur du côté de la Haute-Garonne. On réécoute Étienne et tu en parles avec lui.
Par exemple, en Bretagne, où il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, ouais. Où les gens ont des exigences de circuit court, parce que la mentalité des gens ont envie de donner à leurs enfants des produits qui soient plus sains et qui soient alors à la fois moins pesticidés, qui soient de meilleure qualité, qui soient meilleurs au goût. À partir du moment où tu n'achètes pas un certain nombre de produits et tu achètes d'autres en te disant « ça va être plus cher, mais ça va être meilleur », eh bien les éleveurs, les agriculteurs sont obligés de s'adapter à cette nouvelle demande.
Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Parlez bien au téléphone, dans votre smartphone ou je ne sais quoi.
Bonjour,
pour que Étienne vous écoute et vous entende surtout.
Oui, j'étais longtemps chef de production dans une cuisine centrale. Mm-hmm. Et on avait mis en place avec la chambre d'agriculture de Saint-Gaudens, pour pas la citer, 80 invitations sur tout le territoire pour faire venir des maraîchers, pour qu'on puisse parler, pour faire venir des fruits dans ma cuisine. On servait quand même 1200 repas par jour à des enfants en scolaire, etc. Et on en a eu que 5 qui sont venus. Mm-hmm. Donc déjà pas beaucoup intéressés, apparemment. Mm-hmm. Et donc j'avais traité avec un agriculteur de pommes de l'Ariège qui était venu me livrer des pommes. Et en fait, ça n'a pas marché parce que les pommes n'étaient pas bien rondes, sans points noirs, sans rien. Ça m'avait vraiment marqué cette fois-là, quoi. Voilà.
Ouais, mais
donc c'était voilà, il faut vraiment que ça soit calibré.
Donc aujourd'hui, le consommateur, quoi qu'on en dise, il veut du visuel, peu importe le goût, il veut quelque chose de beau.
C'est le consommateur ou c'est l'intermédiaire entre le livreur et le consommateur qui a refusé.
Ah non, moi j'ai été livré, j'ai mis en place, j'ai mis à la consommation ces pommes en tant que dessert fruit et les animateurs qui servaient les repas m'ont dit non, ça marche pas, les pommes sont pas voilà.
Ah, les mômes, ils sont
fais des brocolis ou fais des cordons bleus, tu vas voir la différence, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est...
Malheureusement, c'est ça.
Mais moi, très sincèrement, je pense que sur le marché aujourd'hui, les gens sont moins dans la demande d'un fruit ou d'une tomate parfaitement ronde et parfaitement rouge qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, j'espère qu'il va continuer, où on va privilégier le goût à la forme et à la couleur. J'en suis persuadé.
Mais je pense que ça fait partie de l'éducation aussi, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation et voilà.
Oui, mais alors je pense que c'est peut-être pas les parents. Peut-être que les parents sont plus ringards que leurs mômes là-dessus. C'est peut-être les gamins qui vont faire l'éducation des parents.
Oui, d'accord, mais qui fait les courses aujourd'hui, ce sont les parents,
si tu veux.
Donc le gamin est habitué à ce qu'il voit chez lui ou ce qu'il mange chez lui.
Moi, j'en ai marre d'entendre toujours « c'est la demande du consommateur ». Moi, il y a des tas de choses qu'on m'a imposées, que je n'ai rien demandé, on m'a imposé de bouffer ça et on m'a imposé de boire ça parce que soit c'était la mode, soit c'était plein de pubs à la télé, soit c'était les propos. Mais moi, je n'ai rien choisi. Je n'ai pas choisi de bouffer de la merde. On m'a proposé ça en me disant vas-y, ça c'est bon pour toi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Quand on dit c'est le choix du consommateur, je suis pas d'accord. On oblige le consommateur à consommer.
Non, mais lui, on l'oblige pas, on l'incite. Personne n'oblige qui que ce soit.
On l'incite
et puis après, le consommateur, il arbitre.
Coup, on ne force pas à consommer ce qu'il veut pas consommer.
C'est l'exemple que vient de nous donner Pierre. Allez-y, Pierre.
A contrario, j'avais mis en place aussi, parce qu'on avait un contrat, ce qu'on appelle DSP, délégation de service public, avec la mairie. Et en fait, on avait mis en place avec la mairie de la viande régionale. Mmh. Donc, on faisait l'agneau, le mouton, le bœuf, le veau. Et ce qui était bien, c'est que dans tous les satellites, dans toutes les écoles, il y avait affiché la traçabilité de la viande.
Parfait.
On parle de la viande. Et en fait, il y avait un petit enfant qui me disait « Oh, ben, cet agriculteur, il habite à côté de chez moi, je vais manger de la viande à côté de la maison. » C'était vachement bien.
Alors que quand on y pense, c'est le truc le plus naturel du monde, quoi.
Voilà, c'est ça.
Quand vous faites ça en restauration hors foyer, vous êtes hyper minoritaire parce que personne ne le fait, quoi.
Merci Pierre.
Ouais, mais bon, il faut que il y ait quand même des politiques, la chambre d'agriculture, les mairies, les parents d'élèves, qu'il faut que se réunir et
bien
ça serait vachement bien.
Merci Pierre d'avoir été avec nous. À bientôt sur RMC et RMC Story dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, suite du GG et vous, et puis la parole à Monsieur Emmanuel Le Chip pour nous présenter le programme de Radio Brunet midi 14h sur RMC.
RMC 9h midi. Les grandes gueules.
Entendu à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
I don't understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le mec, service.
Alain Marshall.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
Les grandes gueules, les GG, RMC, RMC Story. Avant de continuer, le GG et vous avez discuté avec Franck de Seine-et-Marne et avec Jacques Maillot de l'accueil des migrants, justement. Monsieur Emmanuel Le Chypre, Radio Brunet sur RMC, midi 14h.
Bonjour.
Qu'avez-vous prévu?
Ah bah, midi, on va commencer par un merci, monsieur le président de la République. Bravo, Emmanuel Macron. Le chômage baisse alors que la croissance est mollassonne. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que les réformes sur le marché du travail, ça fonctionne. Alors, évidemment, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous nous appelez au 32-16. Et puis, alors, en deuxième partie, à 13h, le palmarès le plus attendu de l'année. Mon cher Alain, avec le Festival de Cannes, le Guide Michelin, les prénoms les plus donnés de l'année. Alors, on a du Emma, du Louise, du Gabriel, du Arthur. Ah, c'est les prénoms classiques qui sont en tête cette année. Mais bon, si vous n'aimez pas votre prénom, si vous regrettez le prénom que vous avez donné à vos enfants, bref, c'est le grand défouloir aux prénoms, ceux qui sont contents, ceux qui sont pas contents, ceux qui veulent en changer. Ça aussi, c'est au 32-16.
Il y a eu un boom sur Kylian, je crois. Hein.
Oui, il y a eu un petit boom sur Kylian, effectivement. Ouais.
Je vois pas pourquoi, par contre.
Mesdames et messieurs, 32-16 pour réagir avec Emmanuel.
Ah, mais il y a bien plus original, les prénoms des séries télé, les Daenerys, fabuleux.
Réagissez avec le camarade Le Chip tout à l'heure sur RMC entre midi et 14h, entre midi et 2, au 32-16. Aujourd'hui, dans les grandes gueules, nous avons parlé des associations, des ONG qui demandent aux Européens d'intervenir, d'accueillir les migrants qui sont aujourd'hui sur les bateaux Open Arms et Ocean Viking avec des tempêtes qui s'annoncent. On va réécouter ce que disait Jacques Maillot et puis ensuite il en parle avec Franck qui est ambulancier du côté de la Seine-et-Marne.
Ben, à mon avis, qu'il y a une initiative qui est prise par l'Europe du Sud, mise à part l'Italie. L'Italie, d'ailleurs, à la limite, sur ce plan-là, ils ont quand même beaucoup donné à un moment.
550 000.
Le résultat, ça a amené ce qu'on sait, Salvini et compagnie. Donc, de ce côté-là, à mon avis, l'Espagne et la France doivent prendre une initiative. En Europe, il faut que des pays prennent une initiative. On peut les accueillir et les répartir.
Franck, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Franck. Jacques vous écoute, je vous en prie.
Bah écoutez, moi ce qui m'étonne un petit peu dans tout ça, dans l'histoire de ces pauvres migrants naufragés, c'est que il me semble que dans la règle maritime, en cas de naufragé, la règle, du moins le bon sens, c'est de les débarquer dans le port le plus proche et le plus sûr. Mmh. Et il me semble que le port le plus proche et le plus sûr de la Libye, ça reste la Tunisie, ça reste pas les ports de l'Europe. Ah ouais. Donc je me pose une question, pourquoi toutes ces associations ramènent ces pauvres migrants jusqu'en Europe, alors qu'ils savent très bien qu'en Europe, ils vont être parqués comme des animaux, on va les laisser dans des endroits inhumains. Si ce n'est que il y a des associations qui seront là pour les défendre et puis pour s'occuper d'eux.
Alors Jacques.
Oui, bon, votre remarque, je comprends très bien votre remarque sur la Tunisie. Enfin là, ils attendent depuis maintenant une dizaine de jours. Moi, je trouve que là-dessus, il faut les accueillir. Et je pense qu'on peut se mettre d'accord, je persiste, à la fois, nous, on accueillir une partie, l'Espagne une partie, éventuellement le Portugal, mais c'est assez rare. Je pense que ça peut se régler. Puisque malheureusement, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'arrive pas au niveau de l'Union Européenne à un véritable accord de ce côté-là. D'ailleurs, l'Allemagne, quand même, nous a donné un bon exemple. Je reconnais que
mais Franck Diaz, c'est pas à l'Europe de s'en occuper. Ils sont en détresse, normalement. C'est selon les règles maritimes, ce serait à la Tunisie de les accueillir. Quoi.
La Tunisie, on a accueilli. Faut pas croire que quand on prend les vrais chiffres des accueils
de tous les migrants. Contrairement à ce qu'on dit, la Tunisie on a accepté pas mal. Donc c'est pas, faut pas simplifier le problème.
Non mais ça d'ailleurs,
si c'était simple, ce serait déjà résolu.
À la limite, finalement, de faire cette proposition de la Tunisie, c'est une solution en effet un peu de facilité.
Parce que mais même si tu débarques les migrants en Tunisie, ils ne voudront pas rester en Tunisie ensuite.
Ils ne voudront pas.
Si tu veux, ils veulent aller en Europe
quand même.
La Tunisie, vous savez très bien, est une jeune démocratie qui a des difficultés. Il y a une élection présidentielle. Il y a un chômage.
Ils veulent pas être sauvés, ils cherchent simplement à venir en Europe. Donc
mais oui, c'est vrai qu'ils cherchent à venir en Europe.
C'est plus des naufragés et des pauvres malheureux, c'est des gens qui bougent.
Bah, c'est des migrants.
Ce sont des migrants. Ils veulent venir en Europe.
Pour des raisons économiques ou pour des raisons.
Pour des raisons politiques.
Faut dire les choses nettement. Oui, bien sûr, ce sont des migrants.
C'est pas des gens qui viennent comme on nous les fait passer par les ONG, des gens qui fuient un pays en guerre.
Il y a des gens qui fuient un pays, il y a des gens qui fuient.
Il y a des gens qui.
Vous savez, pour prendre le risque de mourir en mer, puisque quand même il y a eu 24 000, pour prendre le risque, faut quand même qu'il y ait une bonne raison de le faire. S'il n'y a pas l'incendie, s'il n'y a pas le feu, vous prenez pas le risque de traverser.
S'il n'y a pas les bateaux de tous ces ONG qui vont les chercher, il y a
peut-être un peu. Les gens, ils meurent en mer. La preuve, il y en a eu beaucoup de morts en mer. Vous avez l'impression de dire que c'est les ONG qui vont les chercher au port et qui les ramènent.
C'est les ONG qui vont les chercher.
Regardez le nombre de morts en mer, monsieur.
Ils vont, on a l'impression qu'ils ont les téléphones.
Regardez le nombre de morts, pas en même temps.
Franck.
Oui.
Pardon, allez-y.
Il y a à la fois des migrants politiques et des migrants économiques. Il va y avoir des migrants climatiques.
C'est commencé déjà.
Il y en aura de plus en plus.
Merci, Franck. Troisième GG, vous maintenant avec Fabrice qui est du côté. Ah, c'est le camarade Fabrice de Nevers, dans la Nièvre.
Je le hais.
Ouais. Ah, je pense
un fidèle des GG. Entrepreneur. Oui, on va reparler qualité de vie, emploi à travers le territoire. Extrait d'Étienne et c'est Fabrice qui parle.
Il faut arrêter de se raconter des bobards. En réalité, les médecins, ils s'installent pas parce qu'ils ont pas envie de s'installer dans des endroits où il y a plus personne et où ils s'emmerdent.
Aujourd'hui, au contraire, il y a un mouvement où les gens ont envie de sortir des villes, de gagner du cadre de vie.
Figure-toi, pas à 25 ans. Blois, c'est merveilleux. Tours, c'est merveilleux. Chartres, c'est merveilleux. Mais t'as pas envie d'y aller bosser. T'as envie que le soir, tu aies des bistrots ouverts avec des copains pour aller boire des coups, comme tu l'as fait quand t'étais à Paris ou quand t'étais à Lyon ou quand t'étais à Marseille.
Fabrice, bonjour Fabrice.
Bonjour mes chers grandes gueules. Et félicitations pour le succès d'audience. C'est un succès mérité parce que vous êtes une émission authentique. Il y en a, ils font des romans vrais où chaque jour vous produisez une émission vraie. Voilà.
Merci. Le succès d'audience à la télé sur RMC Story.
La comparaison avec Jardin quand même.
Alors,
pas mal.
Mon cher Fabrice, allez-y. Étienne vous écoute.
Oui, Étienne, salut camarade.
Salut.
Malgré tout le bien que je peux penser de toi, l'immense intellectuel que je considère que tu es. Non, mais c'est vrai, je déconne pas. T'es un immense intellectuel, Liebig. Mais il y a des moments, faut que tu racontes des conneries. C'est plus fort que toi.
Oui.
Ça dure 10 secondes, mais c'est une connerie plus grosse que toi. Je te signale que on va pas sur la région parisienne trouver du boulot parce qu'il y a des bistrots ouverts le soir. Je te ferai dire que moi j'ai vécu 20 ans ici, Muno. Je te mets au défi de trouver un bistrot d'ouvert le soir, en pleine semaine ou le dimanche. On va en région parisienne parce que on va chercher le boulot parce que toutes les richesses sont là-bas. Je te donne un exemple, moi c'est lié à mon travail. Le Grand Paris, 30 milliards d'euros qui sont distribués dans la région Île-de-France. Et forcément qu'il y a du boulot là-haut. Mais je suis certain qu'un jour il y aura un exode francilien parce qu'aujourd'hui on recherche un retour à la terre, on recherche moins de pollution, on n'est pas venu sur Terre pour supporter 2 heures de bouchon le matin, 2 heures
bien
de bouchon
sûr.
Le soir.
Bien sûr.
Et quant aux candidats, tu vois, j'ai des potes qui sont entrepreneurs en région parisienne, ils ne trouvent personne, bien qu'il y ait des bistrots ouverts le soir à Montreuil. Ils ne trouvent pas de conducteurs d'engins, de chauffeurs de camions.
Tout à fait. Mais moi, je vais te dire un truc, je suis tout à fait d'accord avec toi, il va y avoir un retour. J'en suis sûr, ça va être dans les 30 ans qui viennent, il va y avoir des gens qui vont repartir de là. De toute façon, c'est plus vivable, on est 13 millions en banlieue parisienne, en région parisienne, c'est devenu invivable. Non, ce que je te dis, c'est que quand tu as pris des habitudes, et je vois bien quand même, il suffit de te balader un petit peu dans Paris, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes, à Bordeaux, et même à Dijon d'ailleurs. Il suffit de te balader pour voir le jeudi, vendredi, samedi, tous ces bars pleins de jeunes qui sont ouverts avec des gens en terrasse qui restent jusqu'à 23, 24, minuit, qui sont là en train de discuter, ou à Toulouse. Il y a un esprit qui s'est installé dans la jeunesse d'aujourd'hui qui a entre 17 et 25 ans, qui est de cet esprit-là. Le jour où tu as pris ces habitudes-là, c'est très difficile, et c'est ce que nous ont dit quelques médecins qu'on a eu au téléphone quand même dans cette émission. C'est très difficile d'aller dans des bleds où effectivement il y a plus de vie le soir. Par exemple, là, je reçois plein de messages de gens qui me disent t'as raison Étienne, la Chartre, un type de Chartre qui m'envoie t'as raison Étienne, à Chartres à 19h il y a plus un bistrot ouvert, t'es obligé de rentrer chez toi et d'être avec ta télé quoi si tu veux. Donc comprends bien qu'il y a des habitudes. Alors je suis d'accord, c'est le boulot qui attire les gens, mais quand même il y a des habitudes qui se sont prises aujourd'hui dans la jeunesse et que je trouve plutôt sympathique, qui est celle-là, qui ne sont pas les habitudes d'il y a 30 ans. Et donc, effectivement, c'est difficile de vivre dans des endroits désertés.
Salut Fabrice, à bientôt pour de nouvelles discussions. Ciao Fabrice, demain, 9h midi, à les GG, les grandes gueules. Nous serons avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire, géographie, essayiste, Joël Dagosséry, chargée de clientèle, Elina Dumont, intervenante sociale, et c'est un responsable policier. La police, méthode policière, beaucoup critiquée, les enquêtes de l'IGPN. Yves Lefebvre qui passera le grand oral des GG.
De
Mesdames et messieurs, passez une bonne journée et je vous dis à demain 9h.
RMC, les grandes gueules.